France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Barthélémy Gaillard, Louan Deniel, Mélanie Chalandon, Sacha Mattei, Fanny Richet et Pénélope Lemoguen, réalisée par Vivian Le Cuivre, et à la technique ce matin, c'est Nicolas Leroulé. Alors que la guerre embrase une partie du monde et prétend parler au nom des Iraniens, nous consacrons dans Culture Monde une série sur les mécaniques de la guerre avec toutes les précautions et réserves impérieuses. Nos invités ont partagé leurs réflexions lundi sur les modalités de l'interventionnisme des États-Unis, mardi sur les Iraniens privés de souveraineté entre guerre et répression, hier sur la non-prolifération devenue l'excuse pour toutes les violences. Aujourd'hui, quand les discours les plus religieux fondamentalistes s'entrechoquent, aux États-Unis, en Israël et en Iran, où le clergé a présenté la mort d'Ali Khamenei comme celle d'un martyr de l'islam.
Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, l'âme élevée du guide de la grande nation d'Iran, l'imam Khamenei, que Dieu sanctifie son âme, a rejoint le royaume céleste. Aujourd'hui, la nation infatigable d'Iran, la nation islamique et les partisans de la liberté dans le monde sont en deuil suite aux attaques malveillantes de l'Amérique criminelle et des perfides sionistes.
Nous sommes honorés de nous présenter devant vous aujourd'hui pour élever les bras de notre président. Je prie pour que votre grâce et votre protection soient sur lui. Je prie pour que votre grâce et votre protection reposent sur nos troupes et tous nos hommes et femmes servant dans nos forces armées.
Il y a 2500 ans, dans la Perse antique, un oppresseur s'est levé contre nous, avec exactement le même objectif que celui du gouvernement iranien, anéantir complètement notre peuple. Aujourd'hui aussi, en cette fête de Pourim, le sort en est jeté et ce sera la fin du régime du mal. Le prophète Amos a dit « Le lion a rugi, qui n'aura pas peur ?» Dans l'opération Rugissement du lion, c'est nous qui rugissons.
Benjamin Netanyahou n'est pas le seul à donner à la guerre une référence religieuse. L'Iran a numéroté son opération Vraie Promesse 4 comme pour l'inscrire dans une liturgie guerrière, une nouvelle phase vers le retour du 12e imam al-Mahdi dont l'arrivée signera la fin des temps. Millénarisme contre millénarisme, les milieux chrétiens sionistes aux États-Unis présentent cette guerre comme une étape dans l'accomplissement des prophéties bibliques. On a entendu un extrait de la prière religieuse qui s'est tenue dans le bureau ovale le 5 mars dernier. Une vingtaine de pasteurs évangéliques autour de Donald Trump, main sur son épaule et les yeux fermés, priant Dieu de lui accorder la sagesse venue du ciel. La semaine dernière encore, l'ambassadeur des États-Unis à Jérusalem, Mike Huckabee, soutenait le projet de faire advenir un grand Israël, cette utopie d'un territoire israélien qui courrait du Nil à l'Euphrate, prélude d'une confrontation finale entre le bien et le mal. Ces discours existent, ils sont de plus en plus nombreux, décomplexés, performatifs. Ils sont aussi largement contredits et neutralisés, y compris par d'autres églises protestantes ou par le Vatican, qui a réaffirmé de son côté son attachement au droit international. Alors, quelle importance faut-il donner à ces références religieuses? Jusqu'où dictent-elles les actes de ces trois États aujourd'hui dans cette guerre? Que relève du religieux? Que relève du politique? C'est pour y voir plus clair que nous avons invité tous les deux Olivier Roy. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Merci d'être avec nous depuis Florence. En Italie, vous êtes politologue, professeur à l'Institut universitaire européen de Florence. Vous êtes spécialiste de l'islam politique et en particulier chiite. Bonjour Alain Dikoff.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce studio. Sociologue, directeur de recherche au CERI et directeur de l'ouvrage Radicalité religieuse au cœur d'une mutation mondiale chez Albin Michel, paru en octobre dernier. Et pour commencer, Alain Dikoff, vous souhaitiez poser un préalable, et on a tout le temps de le faire dans cette série dans Culture Monde. la guerre actuelle n'est pas une guerre de religion. Et pourquoi ça vous paraît important de le dire? Vous avez l'impression que c'est la façon dont elle est présentée?
Enfin, elle est visiblement présentée ainsi par les protagonistes, par une partie des protagonistes. Donc ça, c'est déjà un fait qu'il faut souligner, sur lequel on reviendra certainement. Mais le préalable que je voulais faire, c'est en effet dire que les liens entre religion et politique sont, et c'est le moins qu'on puisse dire, extrêmement complexes. Et les liens entre religion et politique, surtout, disons, étrangères, sont encore plus complexes. Parce que ça va un peu dans tous les sens. Et évidemment, ça n'est, on peut avoir d'un côté le recours à des discours religieux. On en a eu des exemples à l'instant. Mais évidemment, ça ne veut pas dire que l'objectif recherché va répondre à une logique religieuse. Il peut répondre à tout à fait autre chose. Et très clairement, y compris pour la guerre d'aujourd'hui, répondre à des objectifs de destruction d'un adversaire, d'un nouvel équilibre stratégique. Donc des choses qui n'ont rien à voir avec la religion. Mais en effet, ce qui est quand même intéressant, c'est la mobilisation de ce type de registre. Parce que si on reste juste au Moyen-Orient, et si on a un tout petit peu un sens de l'histoire, en 1970, dans les années 70, on n'aurait pas eu ce type de discours. On aurait invoqué, et Dieu sait qu'il y a aussi eu des guerres, mais les protagonistes, aussi bien du côté israélien, qui à l'époque était travailliste, donc de gauche, pour faire vite, avec Ben Gurion, que du côté arabe, avec en particulier Nasser, utiliser d'autres types de discours, qui étaient des discours, alors du côté de Nasser, anticoloniaux, tiers-mondistes, de lutte contre l'impérialisme, mais il n'y avait pas de religieux là-dedans. Et du côté, sioniste, juif, israélien, eh bien c'était aussi des discours qui étaient des discours de défense de l'autodétermination des droits du peuple juif, etc., etc., mais où aussi on n'invoquait pas le religieux. Donc ce que je veux simplement dire, c'est que selon les époques, le religieux peut être sollicité ou au contraire laissé complètement de côté.
Et justement, on va prendre le temps de replonger dans cette histoire-là qu'on peut faire remonter à avant la révolution islamique en ce qui concerne l'Iran, avant même la création de l'État d'Israël. Aujourd'hui, la religion occupe une place prépondérante et dans la mise en scène religieuse de la guerre et dans sa justification biblique dans certains milieux chrétiens pro-israéliens et dans les discours des responsables des trois États dont nous parlons ce matin, en Iran qui est une théocratie, mais aussi aux États-Unis, en Israël, qui n'en sont pas, quoi qu'il y ait débat au sujet d'Israël, qui s'est ouvertement déclaré État-nation au service d'un groupe religieux particulier en 2019. Alain Dikoff, depuis le début de cette guerre que les États-Unis et Israël mènent en Iran, depuis 10 jours donc, est-ce que vous avez entendu des justifications religieuses de la part des belligérants, ou toutes les références qu'on va donner datent d'avant la guerre?
Non, il y a des recours, évidemment, encore une fois, les extraits le montrent, on va solliciter des textes, éventuellement, on va dire qu'on mène la guerre aussi au nom d'un certain type de valeurs, qui peuvent être des valeurs, bon, Benjamin Netanyahu l'a dit, qui n'ont rien de religieux, comme... Alors évidemment, on peut la contester, mais qui est la défense finalement du monde occidental, en fait, hein, c'est ce qu'il a dit, contre un régime obscurantiste, etc., etc. Mais dans l'autre côté, oui, on a, par exemple, dans certains cercles aux États-Unis, assez clairement une référence qui est faite au fait que ça fait partie des combats qui vont ouvrir finalement la voie à une période qui sera celle du millénarisme, donc du retour à terme du Christ sur la terre. Donc il y a ce type de discours. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire que toute la politique, en l'occurrence américaine, est guidée par ça. Bien sûr que non. Mais ce sont ces discours qui innervent certains cercles, pas tous, mais certains cercles des décideurs américains.
Olivier Roy, en Iran, qu'est-ce qu'on peut en dire? Là, je parle encore une fois de la séquence très récente. La mort de l'ayatollah Khamenei a mobilisé les thèmes chiites fondamentaux du martyr et de la résistance. Est-ce qu'on peut néanmoins s'en étonner dans une théocratie comme celle de l'Iran?
Ben, c'est leur raison d'être en ce qui concerne le clergé. La spécificité de l'Iran, c'est le poids d'un clergé, d'abord, parce que c'est très rare dans le monde sunnite, ça n'existe pas, et ce clergé est chiite. Évidemment, il a développé, au cours du XXe siècle, un discours millénariste, j'allais dire assez concret, c'est-à-dire sur la politique, etc. Alors qu'à son origine, c'est au XVIe siècle, quand ce clergé s'est lentement mis en place sous l'égide de la dynastie safavide, ils étaient plutôt dans des postures mystiques, très philosophiques, et pas du tout dans l'intervention politique. Le clergé chiite iranien s'est politisé à la fin du XIXe en protestation contre les exigences occidentales, européennes, pour épurer la dette iranienne. Donc, à la fin du XIXe, un grand ayatollah qui parlait à partir de Najaf en Irak a lancé le boycott des tabacs pour justement s'opposer à cette mainmise occidentale sur l'Iran. Donc d'emblée, on a dans ce clergé chiite une position, j'allais dire, très anti-impérialiste et du coup qui va s'assimiler au nationalisme iranien. Mais ils ne contesteront pas la monarchie. C'est seulement au début des années 60, hein, 1960, qu'on voit une soudaine politisation d'une partie du haut clergé chiite menée par l'ayatollah Khomeini, évidemment. Et là, il y a une deuxième dimension qui est très importante, c'est la dimension anti-impérialiste au sens moderne du terme. Beaucoup de jeunes mollahs, en fait, sont très proches de milieux progressistes, de milieux marxistes. On a des espèces de synthèses philosophico-théologiques, comme la pensée de Ali Shariati, par exemple, qui était un ami de Frantz Fanon.
Et de Jean-Paul Sartre.
Qui concevait... Et Jean-Paul Sartre, oui, et qui vivait à Paris d'ailleurs, et qui a inventé une espèce de synthèse schisme et marxisme, ou hegelianisme plutôt. Et ça a beaucoup pris chez la jeunesse iranienne, non seulement dans les universités, mais également dans les séminaires religieux. Et dès que la révolution islamique a lieu, cette posture anti-impérialiste et occidentale domine. C'est-à-dire que, alors évidemment, on soutient les Palestiniens, on prend une position anti-sioniste parce qu'Israël est vu comme l'expression de l'impérialisme mondial, mais on va tout de suite parler très positivement de Che Guevara, de Cuba, des sandinistes. L'Iran islamique va soutenir l'IRA irlandaise, hein, parce qu'en plus, il y a un petit élément religieux qui leur plaît plutôt là-dedans. Et par contre, l'Iran islamique va s'opposer à tous les régimes arabes existants.
Hein. Donc
on peut... Il n'y a pas de solidarité moyen-orientale, mais il y a une solidarité anti-impérialiste.
Donc pendant la révolution, ou juste avant la révolution en Iran, révolution de 79, est développée cette théologie de la libération islamique, comme d'autres d'ailleurs le font du côté chrétien en Amérique latine. Entre parenthèses, les États-Unis sont assez œcuméniques dans le choix de leurs ennemis dans l'histoire, puisqu'en Amérique du Sud, c'était l'Église catholique qui a été prise pour cible dans les années 70 et 80, parce qu'elle avait pris le parti des pauvres et qui a justifié un certain nombre de coups d'État. Dans quelle mesure l'ayatollah Khomeini s'est-il appuyé en 78-79 sur cette aile islamique de gauche, et je crois d'ailleurs qu'on disait islamo-marxiste à l'époque, ou est-ce que c'est un anachronisme, Olivier Roy, mais dans quelle mesure s'est-il appuyé sur cette aile-là pour galvaniser les foules lors de la Révolution ?
Alors, il n'a pas tenu de discours idéologique politique tout de suite. Il a été prudent. Alors, il a tenu un grand discours charismatique, bien sûr, en jouant sur cette carte millénariste du retour de l'imam caché, etc., qui est très proprement chiite. Mais il s'est ménagé une grande coalition en jouant justement sur les ambiguïtés, en évitant d'être trop précis. Donc, sa coalition allait de certains... Mollah conservateur, qui en voulait au Shah d'Iran, qui avait fait une réforme agraire, etc., ou qui tout simplement s'opposait à l'occidentalisation des mœurs dans la société iranienne, mais il s'est aussi appuyé à fond sur cette génération de jeunes islamo-marxistes. Et il a aussi reçu le soutien d'une extrême-gauche, hein, dès le début. Les gens comme Bani Sadr, par exemple, étaient très très à gauche. Et ça a marché. Voilà, c'est sa grande force dans le fond. C'est un conservatisme sur le plan moral, des mœurs, de la loi, etc. Un messianisme sur le plan religieux et un anti-impérialisme révolutionnaire sur le plan géostratégique.
Donc la révolution islamique est révolutionnaire d'un point de vue politique, ultra-conservatrice d'un point de vue du projet de société, avec à la fois un ayatollah Khomeini qui fait l'éloge de Che Guevara, qui condamne l'alignement saoudien sur les intérêts des États-Unis, qui rêve d'un monde où les intérêts dominants des États-Unis seraient partout renversés, mais aussi d'un monde où la loi coranique s'appliquerait à l'ensemble de l'Oumma, la communauté des croyants, avec cette optique millénaire scénariste. Et là, Alain Dickov, c'est surprenant d'entendre, enfin surprenant pour les béotiens comme moi, de savoir que des millénarismes s'opposent, qu'il y a un millénarisme dans l'islam, un millénarisme chez les chrétiens sionistes. Et comment, depuis toujours...
Et chez les juifs.
Oui, et chez les juifs, bien sûr. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cet antagonisme de millénarisme?
En fait, là, il y a un fil rouge, malgré tout. C'est-à-dire qu'on parle d'univers religieux différents, donc chrétiens, musulmans, chiites et juifs, mais ce qu'on voit avec force aujourd'hui, c'est qu'ils partagent un messianisme politico-religieux. Alors évidemment, ils n'attendent pas le même messie, ça c'est clair, mais il y a la même tension messianique, c'est-à-dire l'idée qu'il va y avoir un autre royaume, finalement, qui viendra après ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc ça, évidemment, ça veut dire que ça induit aussi un changement du rapport aux politiques, parce que dans la politique moderne, traditionnelle, telle que nous la connaissons, par exemple en Europe de l'Ouest, globalement, on vit pour gérer des affaires qu'on pourrait appeler mondaines, les choses d'ici-bas. On se préoccupe pas de ce qui se passe dans le ciel. Ça, depuis l'émancipation, le développement de logiques du lumière, ça a disparu de l'agenda. On n'a plus ça sur la table. Des gens peuvent croire, évidemment, mais ça n'a pas d'impact sur la définition de la politique. Là où il y a eu, où il y a une mutation depuis, en effet, une trentaine d'années, c'est que au nom de certains idéaux messianiques, donc qui concernent l'au-delà, on va avoir des actions ici-bas. C'est ça qui est vraiment nouveau. Et les actions ici-bas, bah, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que, en particulier avec la guerre, mais ça la précède, évidemment. C'est un processus, il n'y a pas un moment précis. Mais grosso modo, c'est vrai que depuis 20-30 ans, il y a cette logique-là où on va mener des actions qui ne sont pas uniquement justifiées pour des raisons mondaines, mais pour des raisons extra-mondaines.
Avec Olivier Roy, on s'est arrêté pour l'instant sur la date de 79, la révolution iranienne. Comment Israël, à ce moment là, lit, interprète cette révolution. L'État hébreu est déjà une puissance régionale depuis la guerre de 67. C'est également l'année, d'ailleurs, où elle se dote de l'arme nucléaire, comme on le suppose aujourd'hui, nous disait hier Benoît Pelopidas. Comment Israël considère l'Iran à ce moment-là comme un rival religieux ou politique ?
Non, c'est un rival stratégique, c'est un rival politique, c'est-à-dire c'est un régime qui proclame clairement qu'il est en lutte contre deux satans, le grand les États-Unis et le petit Israël, donc en développant un antisionisme totalement débridé. Donc oui, c'est d'emblée, et en 79, il y a déjà eu un changement politique en Israël, on est déjà dans l'ère du Likoud, hein, donc c'est la fin de l'hégémonie du Parti travailliste en 1977, donc quand la révolution islamique se développe, on a déjà pas encore entièrement changé, mais il y a déjà une mutation en Israël qui ne fera que se renforcer. Mais c'est clair qu'au début, l'Iran est surtout vu comme un danger, en fait, comme un danger stratégique. Alors là, à l'époque, on parle pas du tout de nucléaire, mais il y avait des relations officieuses entre l'Iran du Shah et Israël, bon, une sorte de modus vivendi, hein, entre les deux États. Ça faisait partie de la stratégie israélienne de s'appuyer sur les États musulmans non arabes, donc la Turquie d'un côté et l'Iran de l'autre. Et évidemment, avec la révolution islamique, tout ça disparaît et progressivement, comme on le sait, la dimension anti-israélienne va être absolument centrale dans la rhétorique et parfois aussi dans l'action de l'Iran.
Oui, Olivier Roy, très vite, l'ayatollah Khomeini parle de grand Satan et de petit Satan au sujet des États-Unis et d'Israël, même si j'ai cru comprendre, Olivier Roy, qu'au départ, petit Satan, cette insulte-là, elle est plutôt dirigée vers l'URSS. Mais pourquoi utiliser ce vocabulaire d'abord en désignant les États-Unis et l'URSS, puis Israël ?
Parce que c'est le monde qui n'est pas musulman et qui est anti-musulman. Alors les Américains, c'est l'impérialisme et le capitalisme sauvage, et les Russes, c'est le communisme, donc l'athéisme. Donc les Russes ne peuvent pas, évidemment, être des alliés sur le plan religieux. Et pourtant, Roménie va tout faire Et le régime va tout faire, et a toujours continué à faire, pour avoir de bonnes relations avec les Soviétiques, puis avec les Russes, qui ne seront jamais vus comme une menace stratégique. Ils ont un peu de mal à expliquer ça à la population, mais surtout, par exemple, aux musulmans d'Asie centrale ou d'Afghanistan, hein, qui comprennent pas pourquoi l'Iran n'a pas mis tout son poids pour soutenir, par exemple, les moudjahidines afghans lors de l'invasion soviétique. Donc c'est très clair, la priorité, ça n'est pas le monde musulman en tant que tel, la priorité, c'est les ennemis de l'Iran révolutionnaire. Et c'est les États-Unis et Israël pour eux.
Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui à lire les discours, les doctrines, enfin tout ce qui peut nous servir de documentation pour comprendre la façon dont fonctionne le régime iranien, d'antisémitisme chez les cadres de la République islamique d'Iran, comme on peut en parler pour certaines milices alliées de l'Iran dans la région?
Alors, au niveau du vocabulaire, ils sont très prudents. Ils ont tout fait, par exemple, pour que il y ait des juifs qui restent en Iran, que les synagogues restent ouvertes, qu'il y ait un député juif au Parlement, etc., etc. Mais de fait, ils ont fait des actions terroristes contre des mosquées, contre des synagogues, contre des associations juives comme en Argentine, etc. Donc, dans les faits, ils se sont attaqués aux juifs en général. Et il y a un autre élément aussi, c'est qu'ils ont été soutenus par un certain nombre d'antisémitismes occidentaux. Je pense par Roger Garaudy, par exemple. Dans ces milieux-là, l'Iran, dans les années 80-90, a trouvé un certain écho.
Et cet antisémitisme, on le disait très présent à l'époque, plutôt chez les sunnites, le moufti de Jérusalem, par exemple, qu'est-ce qu'on peut en dire en quelques mots? Et est-ce qu'il avait des liens quelconques avec l'Iran chiite?
Non, il n'y avait pas de lien avec l'Iran chiite. C'est les deux clergés se regardaient en chaîne de faïence. Hein. Il y a eu très très peu d'actions en commun. Et les chiites libanais, par exemple, à l'époque, étaient pas du tout sur le soutien aux Palestiniens. Le grand moufti, c'est très simple. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Il était très opposé, évidemment, à la colonisation juive, à l'arrivée de migrants juifs qui prenaient des terres, se développaient, etc. Et donc, il a vu la montée au pouvoir d'Hitler comme un moyen de lutter contre la colonisation juive.
Il l'a rencontré d'ailleurs.
Et il s'appuyait bien sûr sur des textes anti-judaïques d'ailleurs plutôt que antisémites qui courent dans la littérature religieuse.
Alain Dikoff.
Non, juste préciser en effet pour vos auditeurs, je pense qu'ils l'auront décrypté, mais quand on parle du grand moufti Hajj Amin al-Husseini, on parle des années 20 et 30. Hein. Donc, alors que, évidemment, ça n'a rien à voir avec l'Iran post-révolution islamique de 1979.
En tout cas, pendant longtemps, là, le grand moufti s'opposait à cette colonisation, cette colonisation juive qui commençait à constituer un État d'Israël. Mais dans les années plus tard dont on est en train de parler, le conflit israélo-palestinien, est-ce qu'il mobilisait déjà un discours religieux ou c'était purement territorial?
Non, c'était très peu un discours religieux. Alors on pouvait trouver parfois des traces de cela chez les frères musulmans, qui étaient d'ailleurs réprimés par Nasser dans les années 50 et 60. Leur plus grand chef a été pendu par Nasser en 66. Donc on pouvait trouver ça plutôt dans ce genre de milieu, mais c'était très marginal. C'était en tous les cas pas du tout présent chez les décideurs politiques. Voilà. Donc là, il y a vraiment quelque chose, encore une fois, de neuf qui s'est passé. C'est qu'aujourd'hui, on est dans la mobilisation d'un discours religieux, très clairement. Pendant longtemps, la République islamique a fait, en ce sens-là, un peu figure d'exception, Moyen-Orient, dans les années 80. Aujourd'hui, elle est un peu moins une exception parce qu'il y a beaucoup d'autres pays, y compris Israël, y compris les États-Unis, qui utilisent maintenant ce type de discours. Ou bien, si on peut aussi évoquer un troisième pays comme la Turquie, évidemment, la Turquie avec Erdogan, bah oui, là aussi, il y a une mobilisation d'une sorte d'islamo-nationalisme qui combine nationalisme et islam, et où là aussi, le religieux est mobilisé, alors qu'évidemment, à l'époque kémaliste, c'était totalement inimaginable.
Est-ce que le discours religieux est davantage mobilisé, Olivier Roy, chez les milices alliées de l'Iran, dont donc le Hezbollah qui n'a été créé que dans l'objectif de détruire Israël, les Houthis qui, dès leur création, me semble-t-il, dites-moi si je me trompe, mais se déclarent non pas anti-Israël, mais vraiment antisémites.
Pour les Houthis, je ne sais pas très très bien ce que ça veut dire antisémitisme pour eux. Les Houthis ne sont pas apparus pour combattre Israël. Ils sont apparus, disons, dans les conflits traditionnels du Yémen.
Dans le Hezbollah, pardon.
Donc les...
je parlais du Hezbollah qui a été créé dans cet objectif, dans cet objectif-là.
Le Hezbollah, c'est toute une autre dimension aussi, qui est en gros la revanche d'un prolétariat chiite qui se sentait opprimé par, disons, l'alliance entre les chrétiens et les arabes sunnites. Donc il y a une dimension sociale dans la création du Hezbollah qui est importante. Alors il a été militarisé tout de suite, évidemment sous la direction de l'Iran, et ses premières actions violentes c'était contre les troupes françaises et américaines. Donc aussi cette dimension anti-impérialiste. Et puis après, le Hezbollah est devenu effectivement une milice idéologique, mais qui a une base sociale dans la minorité, ou c'est peut-être la majorité chiite du Liban.
Est-ce que là, vous parleriez, Alain Dikoff, concernant l'Iran et ses milices, d'un sentiment d'appartenance à une communauté religieuse ou géopolitique véritablement ?
Il y a une dimension religieuse, évidemment, puisque l'Iran a mobilisé les minorités chiites au Liban, mais aussi à Bahreïn, dans d'autres pays du Golfe, à l'est de l'Arabie Saoudite, etc. C'était évidemment, et jusqu'en Afghanistan, donc une des bases sur lesquelles la République islamique s'est appuyée, ce sont évidemment les communautés chiites définies religieusement à l'extérieur. Qui pouvaient parfois, certains clercs en tous les cas, pouvaient parfois avoir même la nationalité iranienne, mais la plupart ne l'avaient pas. Même si ça a toujours été une aspiration de l'Iran de dépasser finalement cette sorte d'enfermement dans le chiisme, si je puis dire. Ils ont toujours voulu faire une révolution islamique, ils n'ont pas voulu faire une révolution chiite. Mais de fait, ils ont toujours été un peu renvoyés à cette identité première, et évidemment, ils ont bâti tous leurs appuis, en particulier militants et militaires, à l'extérieur de l'Iran, sur ces communautés chiites, en les armant autant que c'était possible. Et ça a été en particulier le cas, évidemment, au Liban, mais aussi en Irak, par exemple.
Olivier Roy, vous souhaitiez ajouter quelque chose ?
Oui, la révolution d'emblée s'est présentée comme pan-islamique. Elle s'est pas du tout présentée comme une révolution chiite. Et Khomeini voulait unir les masses arabes, donc évidemment une majorité sunnite, contre l'impérialisme et le sionisme. Mais le grand traumatisme, ça a été la guerre avec l'Irak. C'est-à-dire qu'en 80, quand Saddam Hussein s'attaque à l'Iran, les masses sunnites ne bougent pas. Les frères musulmans, les mosquées, etc., ne se rangent pas du tout du côté de l'Iran. Alors comme Alain Dikoff l'a dit, à ce moment-là, l'Iran s'est trouvé coincé dans les minorités chiites, et ils n'ont même pas pris le pouvoir dans toutes les minorités chiites. Ils ont eu des problèmes, il y a eu des conflits chez les chiites libanais, irakiens, afghans, etc., etc. Donc la révolution a pris un côté beaucoup plus chiite, avec un discours très ouvertement, disons, millénariste chiite, le retour de l'imam caché, etc. Donc ces années ont accentué, je dirais, les côtés les plus extrêmes du chiisme, et accentué aussi la division avec le sunnisme. On ne voit pas les masses sunnites aujourd'hui descendre dans la rue pour défendre l'Iran.
Alors, le cas spécifique d'ailleurs de l'Iran et de ce rôle aussi de guide du chiisme que se donne le guide spirituel, enfin l'ayatollah qui est à la tête de l'Iran. Un petit mot d'ailleurs à ce sujet, la mort de l'ayatollah Khamenei, on le disait tout à l'heure, a mobilisé les thèmes chiites fondamentaux du martyr et de la résistance, mourir en martyr, un concept fondamental de l'islam chiite qui remonte à la mort du petit-fils de Mahomet, l'imam Hussein, tué au 7e siècle à Karbala en Irak pour avoir refusé de prêter allégeance à un souverain qui venait d'hériter du pouvoir, jusqu'où son fils, le fils de l'ayatollah Khamenei, dont on ne sait pas d'ailleurs s'il est en vie, mais c'est autre chose, on l'a évoqué mardi avec Shora Makarimi, jusqu'où son fils est-il déjà considéré comme une autorité religieuse aujourd'hui ?
Non, il n'est pas considéré. D'ailleurs, son père ne l'était pas vraiment non plus. Son père s'est acquis une réputation, une légitimité, après avoir été nommé guide de la Révolution. Pour le fils, on a une succession d'ordre dynastique qui est pour montrer la continuité, finalement. C'est ça le message que l'Iran révolutionnaire veut faire passer aujourd'hui. La continuité. Mais lui-même n'est pas du tout une figure charismatique. Les gens le connaissent très très peu. C'est surtout un homme d'appareil politique. C'était le directeur de cabinet de son père. Bon. Évidemment, il peut révéler une autre dimension de lui-même au cours des événements. On verra, mais j'ai quelques doutes.
Alors, je vous ai posé la question à tous les deux de la forme d'antisémitisme au sens propre que l'on pouvait ou pas déceler dans les discours et les politiques menées par l'Iran en particulier toutes ces années et également pendant cette guerre. Quelle part d'antisémitisme cette fois, Alain Dikov, dans cette vision évangélique de la bataille finale entre le bien et le mal qui ne cesse d'être mise en avant dans les milieux chrétiens sionistes aujourd'hui aux États-Unis, dont il me semblait que d'après les textes ou leurs interprétations, elle devait, cette bataille, mettre à mort, détruire un grand nombre de juifs. On a l'impression que chacun aux États-Unis, en Israël, fait comme si ça n'existait pas. Le fait qu'il y a une dimension antisémite dans cette vision du monde-là.
Disons, il y a une dimension, oui. Ultimement, les juifs doivent se convertir dans la vision évangélique. Ça, c'est absolument indéniable. Et pour ceux qui ne se convertiraient pas, en effet, il aurait promis la mort, si je puis dire. Mais il faut peut-être reprendre les choses un peu dans l'autre sens. C'est-à-dire commencer par dire pourquoi aujourd'hui ? Parce que c'est peut-être ça qui nous intéresse avant tout. Ce qui se passera peut-être à la fin des temps, on n'en sait trop rien. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que il y a dans les milieux évangéliques, donc dans des milieux protestants évangéliques aux États-Unis, en particulier baptistes, pentecôtistes, eu un développement de tout un courant qui est un courant qui s'appelle d'ailleurs Christians for Zion, les chrétiens pour Israël, qui est donc un courant pro-israélien très fort. Un des représentants les plus connus, c'est le pasteur John Hagee, qui est un pasteur chrétien évangélique américain, qui est fondateur d'une méga church à San Antonio, au Texas, donc où il y a des milliers de fidèles tous les dimanches, et qui a créé une association, une organisation qui s'appelle Christian United for Israel, et qui est vraiment une association de soutien à Israël, mais à l'Israël d'aujourd'hui, hein, à l'Israël, à l'État d'Israël, parce que évidemment, dans leur perspective, la vision finalement en effet messianique, parce que elle est importante pour eux, elle est incarnée aujourd'hui par un État. C'est ça qu'il faut comprendre. Si on comprend pas ça, on ne mesure pas pourquoi ils soutiennent concrètement l'État d'Israël aujourd'hui. Quand je le dis soutiennent concrètement, ça veut dire l'aider financièrement, envoyer parfois après le 7 octobre, il y a eu pas mal de chrétiens évangéliques qui sont venus en Israël pour aider les Israéliens dans la période difficile qu'ils connaissaient. Donc il y a un engagement à la fois spirituel, mais qui est aussi évidemment un engagement politique. Et donc ça, c'est je dirais ça crée une situation dans laquelle aujourd'hui il y a de fait une alliance entre ce mouvement évangélique aux États-Unis qui est très ancré maintenant dans le Parti républicain aux États-Unis et la droite sioniste, pas nécessairement religieuse d'ailleurs pour le coup, mais représentée évidemment par Benjamin Netanyahou. Et la logique est assez simple. Ils ont un intérêt commun. Pour le moment, ils ont un intérêt commun. Ils vont dans le même sens. Dans le sens, en effet, d'une lutte contre tout ce qui peut ressembler à des courants hostiles à Israël, et en particulier, évidemment, l'Iran aujourd'hui, mais de façon un peu plus large, tous les courants islamistes qui peuvent exister au Moyen-Orient. Et donc ça a des traductions concrètes, parce que son nom a été évoqué un moment. Une des traductions concrètes, c'est qu'aujourd'hui, l'ambassadeur américain En Israël, qui s'appelle Mike Huckabee, qui est un homme politique républicain, qui a été gouverneur de l'Arkansas, et est aujourd'hui un fervent sioniste, un chrétien, qui défend la mise en œuvre, finalement, de la promesse biblique.
Comme il l'a dit encore le 22 février dernier, dans un podcast du commentateur conservateur américain Tucker Carlson.
Israël est une terre que Dieu a donnée par l'intermédiaire d'Abraham, un peuple qu'il a choisi. C'était un peuple, une terre et une intention. Et on peut considérer cela de cette façon.
Alors il est juste de vous demander, à quelle terre faites-vous référence? Je crois qu'il est dit du Nil à l'Euphrate, ce qui correspond à une grande partie du Moyen-Orient.
Ce serait bien s'il prenait tout ça.
L'ambassadeur américain à Jérusalem, Mike Huckabee, le 22 février dernier, d'où tout ce flou qui persiste à l'Indicof quant à savoir si ce sont les discours religieux qui servent des objectifs politiques ou l'inverse. Et je poserai la même question à Olivier Roy, savoir dans quelle mesure aujourd'hui ces discours religieux alimentent en fait une politique ou si c'est plutôt le contraire.
Moi je dirais que dans toute cette affaire, la religion est un carburant. C'est une ressource, c'est quelque chose qui permet de mobiliser des gens et de les mobiliser dans un certain sens, politiquement. Je pense pas, évidemment, que l'objectif des Israéliens soit aujourd'hui de réaliser la prophétie telle que Mike Huckabee l'a évoquée. Mais ce qui est sûr, c'est que aussi bien du côté de certains évangéliques, en tous les cas protestants, aujourd'hui, que du côté des sionistes religieux en Israël, c'est un élément qui les mobilise et qui les fait s'engager, y compris pour les sionistes religieux, militairement.
On rappelle qu'en 2024, Donald Trump a été élu donc président avec une droite religieuse qui représente toujours 35% de son électorat. Notamment, Olivier Roy, à ce sujet, bon, la situation en Iran est quand même très, très différente, et notamment parce que l'autorité de l'ayatollah a été plus que fortement remise en cause et au prix du sang par des milliers et des milliers d'Iraniens et d'Iraniennes. Est-ce que cette mobilisation des discours religieux n'est que très naturelle dans un État qui l'a toujours fait, ou est-ce qu'il y a aussi une volonté d'unir un peuple aussi contre les attaques israéliennes et états-uniennes?
Alors, la propagande, oui, mais ça ne marche plus. Ça fait longtemps que les Iraniens sont déçus par rapport à la révolution islamique. On a un pays qui est devenu extrêmement sécularisé. La fréquentation des mosquées a baissé. Mais comme souvent dans ces cas-là, quand vous avez un phénomène de sécularisation, ceux qui restent religieux apparaissent encore plus radicalisés qu'avant. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui en Iran. Les gardiens de la révolution ont un discours, évidemment, du martyr, de la résistance, etc. Mais dans le reste de la population, non, c'est complètement fini. Et ce que je dirais, c'est que le millénarisme politique disparaît tout simplement parce que l'Iran se rétrécit. Hein, le moment où l'Iran semblait être la puissance dominante de la Méditerranée jusqu'à l'Afghanistan, c'est fini. Là, ils sont en position défensive. Par contre, le discours du martyr, oui, bien sûr, parce qu'ils sont attaqués, parce qu'il y a des morts, et parce qu'il faut mobiliser ce qui reste de fidèles du régime, alors on en rajoute sur un martyrisme.
Alors, peut-être pour conclure, on sait aujourd'hui, l'Iran est encore un cas à part, mais qu'en Israël et aux États-Unis, les armées, celles qui sont à la manœuvre en ce moment dans cette guerre, font une forme d'entrisme religieux à plusieurs niveaux. Aux États-Unis, le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, connu pour son soutien au nationalisme chrétien, dit que l'armée doit devenir une armée chrétienne, au nationalisme israélien pardon, doit devenir une armée chrétienne, comme s'il parlait d'un outil au service d'une croisade, et une association qui défend la liberté religieuse au sein de l'armée dit avoir reçu plus de 2000 plaintes de militaires de toutes les branches des forces armées, y compris les Marines, l'armée de l'air et la force spatiale. Alors concrètement, il y a pour l'instant 15 plaintes déposées au nom de 11 chrétiens, un musulman et un juif, des soldats. En Israël, certes, les ultra-orthodoxes sont exemptés de services militaires, mais il y a des militants quand même ultra-religieux dans l'armée aujourd'hui. Est-ce qu'on sait ce qu'ils pèsent à l'Indicof?
Oui, oui, évidemment. Y a beaucoup de... beaucoup aujourd'hui dans les unités de combat en particulier de comme les Golani des militaires qui font soit leur service militaire ou font leur période de réserve, et parfois même aussi sont des militaires professionnels qui appartiennent maintenant à cette mouvance sioniste religieuse, c'est-à-dire cette mouvance qui considère que finalement le sionisme n'était pas contrairement à ce que Herzl et d'autres avaient dit, un projet politique, mais un projet finalement qui a une dimension religieuse. Donc oui, ça c'est un discours qui est beaucoup plus présent et qui a des traductions en termes sociologiques, en termes de nombre de personnes qui se réclament de ce courant à l'intérieur de la société de façon générale et de l'armée en particulier.
Dans l'armée aux États-Unis, des militaires dont je parlais assurent que certains de leurs commandants les exhortent à dire que cette guerre fait partie d'un plan divin et font spécifiquement référence à plusieurs citations du livre de l'Apocalypse. Le président Trump, selon ses hauts gradés, aurait été oint par Jésus pour allumer le feu en Iran et provoquer l'Armageddon et pour le retour de Dieu sur Terre. Est-ce que c'est aussi, d'après vous, une façon de couper court à toute critique morale, à tous ceux qui essaieraient de replacer le débat autour de cette guerre sur un plan moral et de droit international?
Je ne sais pas si c'est pour contrer ce type de discours, disons, qui insisterait sur une dimension morale, spirituelle. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est une façon de mobiliser fortement un registre de nature fondamentaliste, en fait, religieuse, qui n'empêche pas d'autres de défendre, d'utiliser, parce que c'est ça aussi qui fait la difficulté du rapport de religion politique, d'avoir un discours qui va pouvoir utiliser des versets bibliques pour dire exactement le contraire, qui vont permettre de dire, ben non, en fait, il faut aussi être dans l'écoute de l'autre, il faut aussi être dans une logique de solidarité, il faut aussi être dans une logique de charité, etc., etc. Ces discours-là religieux existent aujourd'hui. Mais la différence, c'est qu'ils ne sont pas relayés politiquement, alors que les discours fondamentalistes, eux, sont relayés politiquement.
Dans un article dans The Conversation, l'historienne Blandine Chélini-Pont rappelait que de nombreuses institutions religieuses expriment aujourd'hui une opposition claire à la guerre, église protestante modérée, les épiscopaliens, les unitariens, les méthodistes, les quakers, mais aussi des responsables catholiques qui dénoncent cette sacralisation du conflit. Et par ailleurs, elle a noté que J.D. Vance et Marco Rubio ne faisaient pas de référence religieuse. Simplement, Vance a fait une déclaration disant que le gouvernement américain n'est pas équipé pour fournir le leadership moral, mais l'église si, sous-entendu, laissons aux religieux le soin de commenter cette guerre-là. La bataille des récits religieux, c'est le dernier épisode de notre série sur les mécaniques de la guerre, des discours religieux au service d'objectifs politiques et l'inverse. En Iran, l'ayatollah est de toute façon à la fois la plus haute instance politique du pays et la plus haute instance religieuse, une sorte de pape du chiisme, bien au-delà d'ailleurs de l'Iran, puisqu'au Pakistan, sa mort a suscité de grandes manifestations.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Depuis le 1er mars dernier, au lendemain de la mort de l'ayatollah Khamenei, des milliers de chiites pakistanais à Lahore, à Islamabad ou encore à Karachi sont descendus dans les rues pour exprimer leur colère dans des manifestations qui parfois ont tourné à la mort de plusieurs d'entre eux. Que représentait l'ayatollah Khamenei et plus largement que représente la République islamique d'Iran pour les pakistanais chiites qui, bien que représentant près de 40 millions de personnes, restent une minorité dans leur pays. Bonjour Paul Rollier.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes anthropologue, spécialiste du Pakistan, chargé de recherche au CNRS, affilié au laboratoire CESOR, le centre d'études en sciences sociales du religieux. D'abord pour les chiites pakistanais qui ont manifesté leur colère à la mort d'Ali Khamenei, ce n'est pas le cas de tous, mais pour ceux-ci, que représente le guide suprême iranien? Je parle de la fonction, un chef religieux, un chef politique?
Alors c'est une question un petit peu difficile. Pour certains d'entre eux, c'était sans doute un chef religieux, mais pour la majorité, je pense que c'était avant tout un symbole de résistance face à ce qui est perçu comme l'impérialisme américain. Voilà, donc il est important de noter qu'au Pakistan, donc les chiites, qui sont en majorité du haut des cimains comme ceux en Iran, mais pas seulement, ne sont pas forcément alignés sur les positions iraniennes, notamment théologiques, et qui a une certaine autonomie qui est très forte au sein de cette population chiite et qui tient notamment au fait qu'il se trouve en minorité au sein d'une république islamique qui est avant tout sunnite.
Donc ils ne sont pas tenus d'appliquer les directives religieuses du guide suprême iranien et de son conseil d'experts?
Ils ne sont pas tenus de le faire. Certains le font, mais la majorité ne le font pas.
Les chiites, savoir que des chiites peuvent être au pouvoir quelque part dans le monde, c'est aussi, ça fait partie de ce qui rapproche certains chiites du Pakistan de la République islamique d'Iran.
Absolument. Donc ça, c'est un symbole très important. Et donc les liens entre cette population chiite sud-asiatique et l'Iran sont bien antérieurs à la révolution islamique, bien sûr. Les oulémas chiites sont traditionnellement formés à Qom et Najaf en Irak. Et ces liens vont être intensifiés à partir des années postérieures à la révolution islamique, les années 80, mais qui correspondent au Pakistan à une période d'islamisation sunnite. Et donc là, on se retrouve dans un contexte où finalement, pour les chiites pakistanais, d'affirmer un rapprochement avec l'Iran, c'est aussi s'aliéner vis-à-vis de la population ambiante. Et ça, ils vont le payer très cher, puisqu'à partir des années 90, il y a la multiplication d'attentats qui vont viser notamment les processions chiites à travers le pays. Donc voilà, il y a un jeu d'équilibrisme qui est très important pour cette population. Ils ne peuvent pas se montrer comme étant la cinquième colonne au service de l'Iran.
Et encore début février, à Islamabad, il y a eu un attentat suicide contre une mosquée chiite lors de la prière du vendredi, revendiquée par la branche locale de l'État islamique. Au moins 31 morts, 70 blessés. C'est un homme qui portait une veste piégée, nous dit-on, qui s'est fait exploser dans cette mosquée. Ces chiites sont aussi l'objet, alors, à la fois d'une méfiance de la part du pouvoir pakistanais, mais d'attaques terroristes fréquentes de la part de groupes djihadistes sunnites au Pakistan.
Tout à fait. Donc ça, c'est la menace première pour les chiites. Des attentats qui ont commencé à partir de la fin des années 80-90 et puis de nouveau avec la montée des talibans dans les années 2000. Et donc ça s'accompagne aussi d'un discours ambiant au Pakistan qui vient des franges les plus extrêmes des sunnites, qui tentent à dire que les chiites seraient finalement des mécréants. Et ça, c'est quelque chose qui fait très peur à la population chiite. C'est déjà arrivé à d'autres minorités musulmanes au Pakistan, et c'est, je dirais, la grande crainte de cette population chiite, c'est de se voir un jour excommuniée. Alors, ils peuvent quand même compter sur des relais très importants au sein de l'État. Le ministre de l'Intérieur est chiite, il y a au sein de l'industrie, de l'armée, il y a des personnes chiites également.
Donc les chiites en minorité au Pakistan, par ailleurs, est-ce que tous les chiites du Pakistan se reconnaissent dans le chiisme iranien ?
Non, alors il y a une particularité. Non, alors donc déjà il y a d'autres formes de chiisme aussi au Pakistan. Il y a par exemple les ismaéliens, mais c'est une petite minorité au sein du chiisme pakistanais. Et il y a aussi une sensibilité religieuse, même au sein des duodécimains, qui est assez différente de ce qui est pratiqué en Iran. Les chiites pakistanais mettent en avant l'amour qu'ils portent envers la famille du prophète, et ils se disent plus amoureux, si on veut, de la famille du prophète que ne le sont les chiites du Moyen-Orient, d'où leur attachement à des pratiques rituelles qui vont à l'encontre du message des ayatollahs, qui était d'un rapprochement entre sunnites et chiites, notamment l'autoflagellation. Hier, il y avait c'était un jour très important pour la communauté chiite, et ces rituels de procession et d'affirmation de leur présence dans l'espace public et à travers des rituels qui ne plaisent pas du tout aux sunnites, ça, c'est une particularité très très forte au Pakistan.
Et dans ce que vous en savez, ces grands rassemblements qui ont eu lieu hier, ce moment fort pour le chiisme, ou plus généralement ces derniers jours au Pakistan, comment la guerre israélo-états-unienne sur l'Iran est-elle brandie, de quelle façon on en parle, quelle place ça prend aujourd'hui, y compris dans le débat public au Pakistan, et en particulier chez les chiites?
Alors, chez les chiites, je pense qu'il ne faut pas craindre de soulèvements chiites en réaction à ce qui se passe en Iran. Il y avait des couvre-feu dans certaines régions du Pakistan pendant les 10 derniers jours qui ont pris fin hier. Donc il n'y a pas de menace particulière à cet égard. Et le Pakistan est dans une position très très délicate. Il y a des jeux d'alliance qui sont en place qui font que le Pakistan doit faire très attention à ne pas s'enliser dans une guerre qui n'est pas la sienne, sachant que le Pakistan est actuellement en conflit avec les talibans pakistanais. Il y a une guerre qui a lieu. Donc ils essayent à tout prix de ne pas se faire embarquer dans cette guerre. Et malheureusement, enfin, si on peut dire. Il y a une alliance qui a été nouée l'année dernière avec l'Arabie Saoudite, un pacte de défense mutuelle entre ces deux pays, et le Pakistan craint d'être attiré dans cette guerre qui n'est pas la sienne.
Et le Pakistan qui reste un allié des États-Unis, comment est-ce que cela influe sur les discours et aussi peut-être la répression des manifestations contre la guerre, qui ne sont pas que des manifestations motivées par des raisons religieuses ou politiques. La guerre fait aussi monter le coût de la vie et ça s'en fait ressentir au Pakistan. Les autorités pakistanaises, comment est-ce qu'elles s'en sortent entre colère de la population et la volonté peut-être de ménager leur allié états-unien ?
Absolument. Donc le Pakistan, encore une fois, est dans cette position d'équilibrisme. Ils ne veulent pas, ils ont réussi à nouer une certaine relation avec l'administration Trump qu'ils essayent de protéger. La grande crainte du Pakistan, c'est d'être pris en tenaille par différents ennemis, et l'Inde en particulier, qui a un pied en Afghanistan, qui a un port non loin de la frontière pakistanaise en Iran aussi. Donc ils essayent vraiment de garder cette relation avec les États-Unis. Et en même temps, la préoccupation première pour le peuple pakistanais, de ce que j'entends de mes amis qui sont là-bas, c'est l'économie, l'inflation. Le prix de l'essence a augmenté de 20% ces derniers jours. Et ça, en période de Ramadan, c'est une période qui implique beaucoup de cadeaux et de coûts. Ça, c'est la première préoccupation de la population, je dirais, au Pakistan aujourd'hui.
Et donc, les autorités pakistanaises ont condamné la mort d'Ali Khamenei, mais elles ont plutôt évité de vraiment désigner les responsables, les États-Unis, Israël, se gardent un peu de discours politique voilà. À ce sujet. Je vous remercie beaucoup, Paul Rollier, d'avoir été avec nous. Peut-être rester un instant avec nous. Olivier Roy, est-ce que vous souhaitiez dire quelque chose à ce sujet, la façon dont les communautés chiites de par le monde ont réagi à cette guerre, et si à chaque fois c'est pour une sorte de solidarité religieuse, excusez-moi pour cette expression un peu maladroite, mais aussi au contraire, comme au Pakistan, comme Paul Rollier vient de nous le dire, les raisons en sont diverses et beaucoup plus complexes qu'on ne peut le penser.
Oui, c'est pour des raisons diverses. Khamenei n'avait pas la suite de disciples, d'imams, de mosquées, etc., que les grands ayatollahs ont. Donc il n'a pas finalement d'audience religieuse. C'est très largement purement politique. Et les communautés chiites réagissent de manière, à mon avis, essentiellement politique par rapport à sa disparition.
Eh ben, je vous remercie tous les trois d'avoir été avec nous dans Culture Monde pour en parler de façon apaisée. Merci Paul Rollier, anthropologue spécialiste du Pakistan et chargé de recherche au CNRS, affilié au laboratoire CESOR, le centre d'études en sciences sociales du religieux. Merci beaucoup pour cette longue conversation de première partie. Olivier Roy, politologue, professeur à l'Institut universitaire européen de Florence. Et merci à Alain Dikoff, sociologue, directeur de recherche au CERI et directeur de l'ouvrage Radicalité religieuse au pluriel, au cœur d'une mutation mondiale, paru chez Albin Michel en octobre dernier. Et je tiens à remercier particulièrement vous tous et tous nos invités de cette semaine, tous et toutes réfléchis, distants, prudents et avant tout humains, et à saluer aussi les auditeurs et auditrices de Culture Monde qui avaient témoigné dans vos nombreux messages de votre curiosité, votre écoute et aussi votre esprit critique. Continuons à discuter et débattre de façon apaisée. Merci beaucoup. C'est l'heure de la revue de presse internationale. Présenté aujourd'hui par Estelle Kammerer. Et depuis le début de cette guerre en Iran, les milices de colons israéliens intensifient les attaques contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée.
5 Palestiniens ont été tués par des milices de colons et des centaines ont été arrêtés rien que la première semaine de la guerre, affirme le quotidien Haaretz et l'ONG de défense des droits humains B'Tselem, basée en Israël. Le quotidien israélien rappelle que les Palestiniens de Cisjordanie vivent déjà constamment dans la peur des missiles et de leurs fragments, surtout quand ils n'ont ni abri ni pièces sécurisées pour se réfugier. Aujourd'hui, s'ajoute la peur de voir les attaques de colons et des raids militaires se multiplier, explique un habitant de Doura, au sud-ouest de la zone occupée, dans un entretien au journal Haaretz. On apprend dans ce même article que le bilan des 5 Palestiniens tués est le plus lourd depuis le début de l'année, bien que les attaques de colons soient communes. L'armée israélienne avait même chiffré l'escalade de ces violences l'an dernier. Elles avaient augmenté de 25%. Haaretz rapporte également comment des dizaines de familles palestiniennes ont dû fuir leur foyer sous la pression. Leur bétail a été emmené, leur maison perquisitionnée, parfois transformée en base militaire. Leurs objets ont même été confisqués par les soldats qui assuraient que cela ne leur appartenait pas. La guerre contre l'Iran est devenue une excuse pour tuer, assure un éditorial de Haaretz, qui raconte la tuerie de ce week-end lorsqu'une centaine de soldats israéliens sont arrivés masqués dans un village. Dans un reportage d'Al Jazeera, un homme montre un amas de terre orné d'un drapeau palestinien. La tombe d'un des deux hommes tués par les colons israéliens, il raconte la scène au micro. De jeunes hommes et les habitants se sont réunis pour défendre la zone. Les colons étaient très nombreux. Il y a d'abord eu des jets de pierre, puis les colons ont commencé à tirer sur les habitants. J'étais avec eux, à l'écart. Ils ont tiré dans notre direction et malheureusement, la balle l'a touché à la tête et l'a tué sur le coup. Des faits confirmés par le ministère de la Santé basé à Ramallah et dénoncés par l'armée israélienne qui a ouvert une enquête dimanche dernier pour identifier les responsables, écrit le Jérusalem Post. Ce que peinent à croire les auteurs de l'éditorial d'Haaretz, selon eux, ce type d'enquête aboutit rarement. D'après une source policière citée par le journal, le tireur serait un réserviste de la défense régionale et les agresseurs seraient liés à un ranch de colons financé par l'État hébreu. Dans ce même éditorial, le quotidien dénonce ce qu'il qualifie de terrorisme juif soutenu par le gouvernement israélien. Un terrorisme dont, écrit le journal, le prix est payé en vie palestinienne, mais aussi en danger pour la sécurité des Israéliens. On apprend également dans un article du Jérusalem Post que l'opposition a dénoncé une nouvelle allocation de plusieurs millions de l'État israélien pour les colonies en Cisjordanie. Allocation votée mardi, soit deux jours après la mort de deux Palestiniens dans des attaques de colons. L'opposition déplore des fonds débloqués pour les colonies en temps de guerre, explique le Jérusalem Post. Dans les pages de Yedot Aharonot, on peut déjà voir des bâtiments préfabriqués installés par des grues dans une nouvelle colonie Ebal, un projet rendu possible par un décret adopté l'an dernier qui autorise la création de dizaines de nouvelles colonies sur le territoire, écrit le journal israélien. Une initiative portée par le Conseil régional qui évoque une terre promise et affiche un objectif, atteindre le million d'habitants en Samarie, au nord de la Jordanie, d'ici 2050.
La suite de votre revue de presse, Estelle Kammerer, sur un autre sujet, vous nous emmenez au Royaume-Uni qui vient d'achever l'une des plus importantes réformes parlementaires de ces dernières décennies.
Fini les ducs, les vicomtes et les comtes à la Chambre des Lords au Royaume-Uni. Pendant des siècles, les pairs héréditaires ont eu le droit de faire et de débattre les lois au Parlement, un droit qu'ils héritaient généralement de leur père et transmettaient à leur fils, rappelle la BBC. Ces titres vont être abolis avant le prochain discours du roi, en mai, selon le Guardian. Les 92 pairs vont donc perdre leur siège et leur droit de vote à la Chambre des Lords et ne pourront que les retrouver en étant nommés pairs à vie. Le quotidien britannique rapporte que la Chambre haute du Parlement a voté la version finale du texte avant-hier, suite au retrait de l'opposition des conservateurs. Une loi très attendue puisqu'une première étape avait été franchie en 1999 sous le travailliste Tony Blair, qui avait supprimé plus de 600 pairs héréditaires, raconte la BBC. Elle se termine sous le gouvernement de gauche de Keir Starmer, le premier au Royaume-Uni depuis 14 ans, rappelle le HuffPost. Une réforme prévue depuis son arrivée en 2024. Le HuffPost s'était d'ailleurs amusé à souligner l'ironie de l'annonce dans un article à l'époque. Annonce faite par l'homme au titre le plus hérité du Royaume-Uni, le roi Charles III en personne. Perché sur son trône, le monarque avait dû lire un discours écrit par le gouvernement pour annoncer la modernisation du Parlement devant tous les pairs héréditaires. Le fait que des centaines de manifestants républicains étaient arrivés avec des pancartes où l'on pouvait lire « Not my king, pas mon roi » n'ont pas dû aider, conclut le HuffPost.
Merci beaucoup Estelle Kammerer.
منو تهران منو دلشوره های ناتمومش منو تهران و بغض آسمونش منو تهران منو افسردگی های همیشه منو دردی که رو لب آه نیفته منو تهران منو اندوه آهشه منو تهران منو بارون ماه مه
« Nous concluons cette série sur les mécaniques de la guerre en Iran avec ce chanteur iranien qui a quitté l'Iran en 78, qui vit aujourd'hui à Los Angeles, Siavosh Gomaichi, et sa chanson « Moi Téhéran » et des larmes à répétition. Demain, dans Culture Monde, vous retrouverez Mélanie Chalandon à 11h avec le partenaire, notre partenaire du journal Le Monde, Marc Semo, pour une table ronde consacrée à l'Europe face à cette guerre au Moyen-Orient. Une Europe divisée. Mélanie recevra Nicole Niesoto et Florent Parmentier. Une table ronde précédée d'un retour de Russie avec le journaliste Vladimir Vazak qui, pour Arte, a rencontré de nombreux jeunes Russes. Vous écoutez France Culture et dans un instant, ce seront les Midis de Culture. منو تهران منو دلشوره های ناتمومش